Bonsoir à vous, chers auditeurs. Ce soir, je vous invite à embarquer pour une aventure hors du commun, celle d'un homme qui, par sa seule volonté et sa ténacité, a changé le visage du monde. Derrière le nom de Fernand de Magellan se cache bien plus qu'un navigateur, un enfant de la Renaissance façonné par les rêves, les dangers et les espoirs de toute une époque. Si vous pensez connaître l'histoire du premier tour du monde, restez avec moi jusqu'à la fin de cette nuit, car vous allez découvrir non seulement la trajectoire exceptionnelle de Magellan, mais aussi les secrets, les luttes et les doutes qui ont façonné chaque étape de ce périple. Je vous propose de revivre le frisson des premiers départs, la peur des océans inconnus et la soif de gloire qui animait les esprits du début du XVIe siècle. Fernand de Magellan naît autour de 1480 dans le nord du Portugal, dans une famille de petite noblesse. Son enfance se déroule dans une époque de bouleversement, marquée par les exploits de navigateurs légendaires comme Bartolomeu Dias, Vasco de Gama ou Christophe Colomb. Le Portugal, tourné vers l'Atlantique, cherche sans relâche de nouvelles routes vers l'Inde et les îles aux épices. Dans ce climat, chaque enfant grandit au son des récits de marins. Tempêtes, monstres marins, trésors lointains, îles mystérieuses. Très jeune, Fernand se passionne pour les cartes et les instruments de navigation. Interroge les marins de passage, rêve de lointains horizons, alors même que la vie quotidienne demeure rude pour une famille de la noblesse provinciale. Break time 2. Dès l'âge de 12 ans, Magellan est envoyé comme page à la cour de la reine Éléonore, épouse du roi Jean II de Portugal. Là, il bénéficie d'une éducation d'élite. Il apprend le latin, le calcul, la cosmographie, la géographie, la navigation astronomique. Il découvre aussi les jeux de pouvoir, les alliances fragiles et la compétition féroce qui règne entre les grandes familles portugaises. Mais surtout, il est plongé dans une atmosphère de recherche et d'innovation où chaque avancée technique, chaque nouvelle carte ou rapport de voyage peut changer le destin du royaume. Il se lie d'amitié avec d'autres jeunes pages qui, comme lui, rêvent d'océans inconnus et de gloire éternelle. À la cour, Magellan fait la connaissance de marins et d'officiers célèbres. Il écoute leurs histoires de tempêtes dans le golfe de Guinée, d'attaques de pirates, de maladies mortelles dans les îles lointaines. Il comprend que le succès n'est jamais garanti, que la mer est cruelle, que l'ambition peut conduire à la mort comme à la gloire. Mais il ne recule devant aucun risque. Il se prépare mentalement et physiquement à affronter l'inconnu, s'exerce à la cartographie, à la navigation, à l'estime, à la gestion d'un équipage. À la fin de son adolescence, il obtient une place sur un des navires partant vers l'Afrique de l'Ouest, alors que le Portugal étend progressivement ses comptoirs le long des côtes du continent africain. C'est sa première expérience des grands départs, du sentiment de perte en quittant le port, du vertige face à l'immensité de l'océan. Le voyage est rude, les vivres sont rares, la chaleur accablante, les tempêtes brisent les navires, la maladie décime les équipages. Mais Magellan apprend la solidarité entre marins, l'obéissance aux ordres du capitaine, la nécessité de tenir bon malgré la peur et la souffrance. Revenu au Portugal, il multiplie les voyages, d'abord vers la Guinée, puis jusqu'en Il participe à la prise d'Ormuz, s'illustre dans les batailles contre les forces musulmanes, découvre la richesse des marchés orientaux et l'extrême violence des rivalités commerciales. Blessé à la jambe lors d'un affrontement, il garde une légère claudication qui deviendra l'une de ses marques physiques et un sujet de moquerie à la cour. Mais il y voit le signe de son engagement et de sa ténacité. Au fil des ans, Magellan forge sa réputation de marin courageux, mais aussi d'homme secret, parfois ombrageux. Certains l'accusent de trop d'ambition. D'autres le disent obsédé par la découverte de nouvelles routes. Il fréquente les savants et les cosmographes étudie les cartes arabes, italiennes, espagnoles. Il comprend que le monde est bien plus vaste que ce que la plupart de ses contemporains imaginent, et que les véritables richesses ne se trouvent pas seulement dans l'or ou les épices, mais aussi dans la connaissance de la terre et de la mer. Break. Time 2. Les échecs ne manquent sans pas. Après la mort du roi Manuel Ier, Magellan se heurte à la défiance de la cour portugaise. On l'accuse de négligence lors de ses missions. On l'écarte des grandes expéditions. Ses propositions de nouvelles routes maritimes sont systématiquement rejetées. Pour un homme de sa trempe, ses humiliations sont insupportables. Mais il ne se résigne pas. Il commence à envisager un avenir hors du Portugal. Rêve de servir un autre souverain, plus audacieux, capable de saisir l'importance de son projet. Magellan se rapproche alors des ambassadeurs espagnols qui cherchent à contrer l'hégémonie portugaise dans l'océan Indien. Il fréquente la communauté des expatriés portugais à Séville, discute avec des marchands, des marins, des espions et perfectionne sa connaissance des rivalités politiques entre les deux grandes puissances ibériques. Il comprend que l'Espagne, frustré de ne pouvoir accéder librement aux épices des Indes, serait prête à tout pour contourner la domination portugaise. C'est à ce moment crucial que mûrit en lui l'idée de génie qui fera de lui un héros ou un paria. Atteindre les Moluques, îles aux épices, en naviguant vers l'ouest, c'est-à-dire en contournant l'Amérique du Sud. Cette intuition, révolutionnaire pour l'époque, s'appuie sur sa connaissance des courants, sur les rapports de navigateurs anonymes, sur une lecture attentive des erreurs de calcul de Ptolémée. Il sait que personne n'a encore franchi la pointe sud du continent américain, que la plupart des marins redoutent les tempêtes de l'Atlantique Sud. Mais il est persuadé qu'un passage existe, que le monde est contournable, que la gloire et la fortune attendent celui qui osera. Mais avant de convaincre un roi, il faut convaincre la cour, les savants, les armateurs, les capitaines. Magellan prépare son dossier avec soin, rassemble témoignages, cartes, échantillons d'épices, élabore un argumentaire implacable. Il fait valoir son expérience, son sens de l'organisation, son courage. Il sait que son accent portugais, ses relations ambiguës avec sa patrie d'origine, ses ennemis à la cour, lui vaudront des résistances. Mais il n'a plus rien à perdre. Son avenir, désormais, ne dépend que de sa capacité à persuader Charles Quint, le jeune roi d'Espagne, d'investir dans un projet aussi audacieux que risqué. À Séville, il rencontre des banquiers, des navigateurs espagnols, des aventuriers venus d'Italie, de Flandre, d'Allemagne. Il observe la diversité des hommes, l'esprit d'entreprise de la ville, la rivalité entre familles athées marchandes, le bouillonnement d'idées et d'espoir. C'est dans ce creuset que Magellan, à l'aube de la trentaine, façonne sa propre légende. Il n'est plus seulement un marin portugais en exil. Il devient le symbole d'une Europe en quête de dépassement, d'un monde qui veut s'élargir au-delà de ses peurs et de ses certitudes. Ce sont ces années d'apprentissage, de voyages, d'échecs et de doutes, qui font de Fernand de Magellan l'homme prêt à affronter l'inconnu, à mener jusqu'au bout la première circumnavigation de la Terre. Sa jeunesse, empreinte de rêves et de blessures, d'ambition et de solitude, le prépare à l'épreuve ultime. Au moment d'entrer dans l'histoire, il emporte avec lui non seulement l'héritage de toute une génération de navigateurs, mais aussi le poids de ses propres espoirs et de ses désillusions. Ainsi débute la plus grande odyssée maritime de la Renaissance. En ce début du XVIe siècle, le jeune Fernand de Magellan porte déjà sur ses épaules le poids d'une expérience rare pour son âge. La mer l'a endurci, les guerres l'ont blessé, mais c'est le rejet de sa propre patrie qui façonne définitivement son ambition. Dans les ruelles de Séville, parmi les tavernes pleines de marchands, d'anciens pirates, d'espions portugais et d'Italiens aventureux, il prend la mesure des rivalités européennes. Le rêve des épices hante toute la ville. la cannelle, le poivre, la muscade, le clou de girofle valent de l'or et promettent la richesse à qui saura s'assurer un accès direct aux îles lointaines. Mais avant de convaincre la couronne d'Espagne, Magellan doit d'abord convaincre les cercles de pouvoir de Séville, puis le Conseil des Indes, instance toute puissante chargée des affaires d'outre-mer. Pour un étranger, même expérimenté, la route est longue et semée d'embûches. Les Portugais espionnent, manipulent, calomnient. Les Espagnols, eux, doutent de la loyauté de ce marin venu de la nation ennemie. Magellan apprend à mesurer ses paroles, à choisir ses alliés, à offrir à chaque interlocuteur la promesse d'un avantage unique. L'Espagne elle-même traverse une période de bouleversement. Charles Ier, tout juste monté sur le trône, n'est qu'un adolescent aux origines flamandes, entouré de conseillers venus du Nord. La noblesse castillane se méfie de ce roi jeune et de ses favoris étrangers. Pourtant, Charles rêve de gloire et de richesse. Il veut rivaliser avec le Portugal et affirmer sa légitimité sur la scène internationale. Magellan devine chez lui un esprit curieux, capable d'audace. Mais pour obtenir son soutien, il doit présenter son projet comme une victoire assurée contre les ambitions lusitaniennes. Pour cela, Magellan s'appuie sur une vision claire. Il existe un passage au sud du continent américain, permettant d'accéder aux îles aux épices sans violer le traité de Tordesillas, qui réserve à la seule couronne portugaise les routes orientales. Il multiplie les consultations avec les cartographes les plus réputés, examine les portulans italiens, les récits des navigateurs castillans, les rumeurs rapportées par les pêcheurs basques et bretons qui auraient aperçu des courants étranges dans l'Atlantique Sud. Son argumentaire s'affine. Il accumule des témoignages, cite des savants arabes, rassemble des preuves de l'existence possible d'un détroit inconnu. Au fil des mois, Magellan parvient à s'entourer d'un petit cercle de partisans. Rui Faleiro, cosmographe portugais, exilé comme lui. Juan de Aranda, officier du commerce andalou. Francisco Albo, marin grec au service de l'Espagne. Il séduit aussi quelques marchands influents, prêts à investir dans une expédition à haut risque en échange d'une part sur les bénéfices des épices. Les négociations sont longues, secrètes, souvent interrompues par des crises de jalousie, de défiance ou d'intimidation de la part d'agents portugais. Mais peu à peu, le projet prend forme, gagnant en crédibilité auprès du Conseil des Indes. Enfin, l'audience décisive est accordée par le jeune roi Charles. Magellan se présente à la cour, humble mais déterminé, et expose son plan devant les plus hauts dignitaires du royaume. Il promet de trouver une nouvelle route vers les Moluques en naviguant vers l'ouest, d'apporter à la couronne un accès direct aux épices et de ne jamais empiéter sur les territoires reconnus au Portugal. Sa maîtrise du discours, sa connaissance technique, sa passion convainquent. Le roi, intrigué par l'audace de cet étranger, accorde sa confiance. Il signe une capitulation qui fait de Magellan le capitaine général d'une flotte de 5 navires, lui promet titre, terre et richesse s'il réussit. La signature du contrat déclenche immédiatement la méfiance et l'opposition des courtisans espagnols et des représentants du Portugal. Les plaintes affluent. On accuse Magellan de trahison. On évoque le risque de perdre des hommes et des vaisseaux dans des mers inconnues. On craint une crise diplomatique avec Lisbonne. Mais Charles reste ferme. Il veut un acte de foi, un symbole fort pour sa jeune monarchie, et décide que l'expédition aura lieu quoi qu'il arrive. Commence alors une phase d'organisation intense et de préparation matérielle. Magellan supervise personnellement l'achat et l'aménagement de 5 navires. La Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Victoria et la Santiago. Chaque vaisseau doit être inspecté, réparé, équipé selon des normes strictes. Les arsenaux de Séville travaillent jour et nuit. On renforce les coques. On adapte les cales pour transporter de l'eau douce, des vivres, des armes, des instruments de navigation. La moindre négligence peut coûter la vie à tout l'équipage. Magellan le sait mieux que quiconque. Le recrutement de l'équipage s'avère aussi complexe que périlleux. Séville, carrefour du monde, regorge de marins espagnols, portugais, italiens, grecs, français et même anglais. Certains sont attirés par l'aventure, d'autres par l'espoir d'enrichissement. D'autres encore fuient la justice ou cherchent à oublier une vie brisée. Magellan doit composer avec cette diversité. Il privilégie la compétence et la fidélité, mais ne peut éviter l'infiltration d'agents portugais ou de mutins potentiels. L'atmosphère est lourde de suspicions, de rivalités, parfois de haine. Plusieurs officiers nommés par la couronne espagnole n'acceptent pas de servir sous les ordres d'un capitaine étranger, ce qui fera naître, dès le début du voyage, des tensions explosives. Pendant ce temps, Magellan veille aussi à l'approvisionnement en cartes, instruments de navigation et vivres. Il commande des astrolabes, des compas, des sabliers, des cartes marines parmi les plus récentes. Il fait emporter des graines, des outils, des matériaux pour réparer les voiles et les cordages, des tonneaux de vin et de biscuits, du porc salé, du fromage durci. Il anticipe les maladies. Embarque de l'ail, de l'oignon, de la moutarde, dont on croit qu'ils préviennent la peste ou le scorbut. Chaque détail est l'objet de calculs méticuleux, car Magellan sait qu'au-delà des océans, aucun secours n'est à attendre. À la veille du départ, la tension monte à Séville. Les familles à voix des marins s'inquiètent. Certains tentent de fuir, d'autres prient dans les églises. Des rumeurs circulent sur des monstres marins, sur des terres sans retour, sur la folie d'un capitaine portugais prêt à mener tous ses hommes à la mort pour la gloire d'un seul. Magellan, pourtant, ne montre aucun signe de doute. Il sait que le succès de l'expédition dépend de sa capacité à imposer la discipline, à garder secret ses véritables plans, à contenir la défiance et la peur. Le 20 août 1519, à l'aube, les cinq navires quittent le port de Séville sous les regards silencieux d'une foule partagée entre admiration et terreur. La flotte descend lentement le Guadalquivir, s'arrête brièvement à Sanlúcar de Barrameda pour les derniers préparatifs, puis, quelques jours plus tard, met le cap sur l'Atlantique. Magellan, debout à la proue de la Trinidad, contemple la mer immense, conscient que chaque mille parcouru l'éloigne de sa patrie, mais le rapproche aussi du but qu'il poursuit depuis des années. La route qui s'ouvre devant lui n'est pas seulement géographique, elle est faite d'espoir, de défis, d'intrigues et de dangers invisibles. Mais Magellan, fort de sa foi, de son expérience et de sa vision, sait qu'il vient d'entrer dans l'histoire. Pour la première fois, une expédition entièrement organisée, financée et dirigée vers l'inconnu par la volonté d'un seul homme, s'apprête à faire le tour du monde. À l'automne 1519, la flotte de Magellan s'éloigne des côtes espagnoles, emportant avec elle plus de 200 hommes venus de tous les horizons. Pour beaucoup, c'est le début d'un voyage vers la fortune ou l'oubli. Pour Magellan, c'est le fruit de longues années de rêves, de sacrifices et de luttes. Mais à peine la flotte engagée sur l'Atlantique, les premières difficultés émergent. Les cinq navires, la Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Victoria et la Santiago, doivent affronter non seulement l'immensité de la mer, mais aussi la défiance des officiers espagnols, la peur de l'inconnu et l'impatience des marins. Les semaines qui suivent le départ sont marquées par une routine éprouvante. Surveillance constante des voiles, réparation quotidienne, rationnement de l'eau douce, discipline stricte imposée par Magellan. La traversée jusqu'aux îles Canaries, premier point d'étape, révèle déjà des tensions. Certains capitaines, notamment Juan de Cartagena, manifestent leur mécontentement face à l'autorité du commandant portugais. Ils contestent ses ordres, remettent en cause ses calculs, tentent de rallier l'équipage à leur cause. Magellan, conscient du danger, agit avec prudence. Il observe, note les comportements, distribue des récompenses de hauts marins fidèles et sanctionne les actes d'insubordination. La flotte fait escale à Tenerife, puis aux îles du Kuchetterhavspe, Cap Vert, pour compléter ses réserves d'eau, de vivres et d'outils. Ces haltes sont l'occasion de rumeurs, d'échanges d'informations, de tentatives de sabotage de la part d'agents portugais infiltrés parmi les marchands et les dockers. Magellan, redoublant de vigilance, accélère les préparatifs et presse le départ, soucieux de garder l'initiative. Il sait que le Portugal a appris l'existence de l'expédition et pourrait envoyer une escadre pour la bloquer ou la détourner. Après quelques semaines, la flotte met cap au sud-ouest, longeant les côtes africaines avant de traverser l'Atlantique. Les vents, parfois favorables, parfois contraires, mettent à l'épreuve la patience et l'endurance des hommes. Magellan veille à la répartition équitable des vivres, surveille la santé de l'équipage, organise des prières collectives pour apaiser la peur et maintenir l'unité. Il sait que la moindre faille dans la discipline pourrait entraîner la mutinerie ou la catastrophe. Au début de l'hiver, la flotte aperçoit enfin les côtes du Brésil, terre mystérieuse découverte quelques années plus tôt par Cabral. Les marins, épuisés, débarquent sur des plages immenses, découvrant une végétation luxuriante, des oiseaux inconnus, des peuples indigènes curieux et parfois méfiants. Les échanges commencent, perles, fruits, objets de métal, outils en bois. Les récits rapportent la beauté des paysages, la douceur du climat, mais aussi les premiers heurts, malentendus et tensions entre Européens et Autochtones. Magellan, prudent, impose des règles strictes pour éviter tout incident diplomatique susceptible de compromettre la suite du voyage. La traversée de la côte brésilienne est jalonnée de découvertes, embouchures de grands fleuves, villages de pêcheurs, forêts denses. Mais très vite, la météo change. Des tempêtes se lèvent, des courants imprévisibles menacent de briser la flotte. Plusieurs navires subissent des avaries. Voiles déchirées, mâts endommagés, barques perdues. Magellan doit constamment motiver ses hommes, rassurer les officiers, prendre des décisions difficiles sur la répartition des vivres et des réparations. À chaque étape, il note scrupuleusement la position des étoiles, les courants, les vents, afin de corriger ses cartes et anticiper les dangers. Après de longues semaines de navigation, la flotte atteint enfin la baie de Rio de Janeiro. Les marins s'accordent quelques jours de repos, réparent les navires, chassent et pêchent, échangent à nouveau avec les peuples autochtones. Mais les officiers espagnols, toujours méfiants, profitent de la halte pour fomenter des intrigues. Certains proposent de retourner en Espagne, d'autres de dénoncer Magellan auprès de la couronne. Les discussions se font de plus en plus houleuses. Et le commandant portugais sent la tension monter. Magellan réunit alors les capitaines à bord de la Trinidad, expose son plan, insiste sur la nécessité de la cohésion, promet gloire et récompense à ceux qui iront jusqu'au bout de l'aventure. Il rappelle que l'objectif est de trouver un passage vers l'ouest, de rejoindre les îles aux épices, de rapporter à l'Espagne la preuve de la supériorité de sa flotte sur le Portugal. La majorité des officiers feint l'adhésion, mais la méfiance persiste. Au fur et à mesure que la flotte descend vers le sud, les conditions de navigation deviennent de plus en plus hostiles. Les tempêtes du littoral Atlantique Sud mettent les équipages à rude épreuve. Froid mordant, pluie incessante, vent violent, brumes épaisses qui réduisent la visibilité. Les vivres diminuent, les maladies se répandent, notamment le scorbut, qui affaiblit les hommes privés de fruits et de légumes frais. Magellan organise des quêtes alimentaires sur la côte, ordonne la chasse et la pêche, fait fabriquer des remèdes de fortune à base de plantes locales. À l'approche du printemps, la flotte atteint la région du Rio de la Plata, gigantesque estuaire qui donne l'illusion d'un passage vers l'ouest. Les marins, pleins d'espoir, explorent les rives, sondent les eaux, dresse des cartes. Mais très vite, la déception s'installe. Le fleuve ne mène qu'à l'intérieur du continent. Les courants sont traîtres, les bancs de sable dangereux. Magellan, sans se décourager, ordonne la poursuite du voyage vers le sud, persuadé que le détroit tant espéré se trouve encore plus loin. La navigation vers la Patagonie s'accompagne d'épreuves redoutables. Les jours raccourcissent, le froid devient glacial, la mer se couvre de brouillard. Les marins croisent des peuples inconnus, des géants selon les récits, sans doute les Patagons, qui impressionnent par leur stature et leurs vêtements de peau épaisse. Les échanges restent limités, mais ces rencontres nourrissent les légendes et la peur au sein de l'équipage. Certains croient que la fin du monde approche, que la nature hostile annonce le royaume des monstres marins. C'est dans cette atmosphère lourde que la première tentative de mutinerie éclate. Plusieurs officiers espagnols, menés par Juan de Cartagena, décident de s'emparer de la flotte, accusant Magellan de folie et d'incompétence. Le complot, soigneusement organisé, menace de tourner au bain de sang. Mais Magellan, informé à temps, réagit avec une fermeté exemplaire. Il fait arrêter les meneurs, organise un procès sommaire, condamne à mort les plus dangereux, exile d'autres sur la côte déserte. La discipline est rétablie dans la douleur, au prix de rancœurs qui ne s'effaceront jamais totalement. Les derniers mois de navigation avant l'hiver austral se déroulent dans une tension extrême. Les navires luttent contre la glace, les tempêtes, les courants violents. Une tempête particulièrement violente pousse la Santiago à s'échouer sur les rochers. L'équipage est sauvé de justesse, mais le navire est perdu, réduisant encore les capacités de la flotte. Magellan prend la décision de s'établir pour l'hiver sur la côte patagonienne, dans une baie abritée que les marins baptisent Puerto San Julián. La survie durant l'hivernage repose sur l'ingéniosité et l'endurance des hommes. On construit des abris de fortune avec les matériaux des navires endommagés, on chasse le gibier local, on pêche dès que la glace le permet. Les journées sont longues, rythmées par l'entretien des navires, les prières, les récits de voyage autour du feu. Mais la faim, la peur, la nostalgie de l'Espagne minent peu à peu le moral de l'équipage. Magellan redouble d'autorité, multiplie les inspections, tente de réconcilier les clans rivaux. Lorsque le printemps revient enfin, les hommes sont affaiblis, mais la détermination de Magellan reste intacte. Il fait réparer les navires, réorganise l'équipage, promet de repartir dès que la mer sera praticable. Il sait que la suite du voyage décidera de la réussite ou de l'échec de son entreprise. Beaucoup doutent. Certains priment pour leur salut, d'autres jurent de ne pas reculer devant l'adversité. Le passage vers l'ouest, la route vers les îles aux épices, le destin de la flotte espagnole dépendent désormais de la volonté d'un seul homme et de la capacité de tous à surmonter la peur de l'inconnu. Le printemps patagonien s'annonce rude et imprévisible. Lorsque la glace commence à fondre et que les premières tempêtes de la saison s'éloignent, Magellan rassemble ses officiers. Il est temps de quitter le refuge de Puerto San Julián et de reprendre la route vers le sud. L'équipage, épuisé par l'hiver, la faim et la peur, retrouve peu à peu espoir à la perspective d'un nouveau départ. Mais la prudence et la discipline restent de rigueur. Les navires, désormais réduits à 4 après la perte de la Santiago, sont inspectés de la quille à la mâture, réparés avec les moyens du bord. Les voiles reprennent peu à peu leur forme sous le vent frais du Grand Sud. Magellan, méthodique, consulte une dernière fois ses cartes, interroge les pilotes et prend conseil auprès des marins les plus expérimentés. Il sait que la suite du voyage sera décisive. Soit ils découvrent le fameux passage vers l'ouest, soit ils devront se résoudre à l'échec et au retour. L'incertitude plane, mais la volonté du capitaine général demeure inébranlable. Les vivres, déjà rares, sont rationnés avec rigueur, et les journées sont rythmées par les corvées, les prières, les séances de navigation et les longues veillées à écouter le récit de ceux qui prétendent avoir aperçu les signes d'un détroit caché. En avançant plus au sud que n'importe quel Européen avant eux, les hommes découvrent un monde à la fois effrayant et fascinant. Les vents hurlent sur les flots, soulevant des vagues hautes comme des maisons. La brume, épaisse, réduit la visibilité à quelques mètres. Les côtes déchiquetées de la Patagonie révèlent des paysages inconnus. Falaises abruptes, forêts sombres, plages battues par les tempêtes. Les équipages observent des animaux étranges, pingouins, phoques, baleines géantes. Les nuits glaciales sont peuplées de bruits inquiétants, de craquements de glace et de chants de vent lugubres. La peur de l'inconnu, toujours présente, s'accompagne de la certitude de vivre un moment unique dans l'histoire de la navigation. Au fil des semaines, la flotte progresse lentement le long du littoral, cherchant l'embouchure du passage tant espéré. Les cartes sont sans cesse corrigées, les profondeurs sondées, chaque baie, chaque rivière explorée avec précaution. Plusieurs fois, l'espoir renaît. Un large bras de mer s'enfonce dans les terres. Des courants puissants semblent indiquer l'existence d'une voie cachée. Mais à chaque tentative, c'est la désillusion. Les fleuves sont barrés de bancs de sable. Les baies s'avèrent être des cul-de-sac. Les courants poussent vers le nord ou vers le large. Le moral des hommes est mis à rude épreuve. Certains, fatigués, commencent à douter ouvertement de la réussite de l'entreprise. D'autres murmurent qu'il vaudrait mieux rebrousser chemin avant que l'hiver ne revienne. Les officiers espagnols, longtemps hostiles à Magellan, oscillent entre résignation et colère. Mais le capitaine général tient bon. Il organise de fréquents conseils de guerre, rassure les indécis, récompense les plus vaillants, promet que la gloire et la fortune attendent ceux qui persévèrent. Enfin, à la fin octobre 1520, alors que la flotte navigue entre des îles escarpées et des fjords inconnus, un passage s'ouvre devant les navires. Les eaux sont profondes, la mer relativement calme, les courants favorables. Magellan ordonne l'exploration du détroit. Les équipages avancent prudemment, redoutant les écueils et les tempêtes. Mais, jour après jour, la voie reste ouverte. L'angoisse fait place à l'excitation. Ont-ils enfin trouvé la clé du voyage? La route vers l'Asie tant recherchée? La traversée du détroit dure plusieurs semaines. Les navires serpentent entre des falaises abruptes, croisent des îlots couverts de forêts denses, échappent de justesse à des écueils invisibles sous la brume. À chaque détour, la peur de l'impasse guette, mais la route continue vers l'ouest, s'élargissant peu à peu jusqu'à s'ouvrir sur une mer immense et inconnue. Les hommes, éblouis, comprennent qu'ils viennent de franchir la frontière entre le monde connu et l'infini de l'océan. Mais la traversée n'est pas sans drame. La San Antonio, le plus grand navire de la flotte, profite d'une nuit de confusion pour faire demi-tour. Son capitaine, opposé à Magellan, décide de retourner en Espagne et d'annoncer l'échec de l'expédition. Ce départ soudain prive la flotte d'hommes, de vivres et d'une partie du matériel, et jette une ombre sur la réussite du projet. Magellan, en colère mais lucide, décide de continuer avec les trois navires restants. Il sait que l'abandon n'est plus une option. Désormais, il faut aller de l'avant, affronter l'inconnu et prouver au monde que la route vers les îles aux épices existe. Le 28 novembre 1520, la flotte émerge enfin du labyrinthe du détroit et découvre devant elle une mer d'une tranquillité saisissante. Le ciel est d'un bleu limpide, les vents soufflent doucement, les vagues sont faibles et régulières. Magellan, frappé par le contraste avec les tempêtes du sud, baptise cette étendue « Mar Pacifique ». Pour la première fois, l'homme comprend l'immensité de l'océan qui sépare les Amériques de l'Asie. L'euphorie de la découverte se mêle à la crainte. Combien de temps faudra-t-il encore pour atteindre les îles promises? Et à quel prix? La flotte se prépare à une nouvelle traversée plus redoutable encore que tout ce qu'elle a connu jusque-là. Les marins, à la fois fiers et inquiets, se lancent vers l'ouest, portés par la foi de leur capitaine et par l'espoir de survivre à l'une des plus grandes aventures de l'histoire humaine. Désormais, il n'y a plus de retour possible. Seul l'inconnu, la mer infinie et la volonté de Magellan guideront le destin de ces hommes jusqu'aux rives de l'Asie ou jusqu'à l'oubli. L'entrée dans le Pacifique marque le début d'une épreuve sans précédent pour l'expédition. Après les tempêtes, la glace et les mutineries, les hommes s'imaginent que la suite du voyage sera plus clémente. Mais la mer Pacifique n'a de paisible que le nom. Très vite, les vivres s'épuisent. La fuite de la San Antonio prive la flotte d'une grande partie des réserves. Les tonneaux d'eau douce diminuent chaque jour. Les biscuits deviennent durs comme la pierre, infestés de ver. La viande salée pourrit sous la chaleur, et bientôt, il ne reste que du riz moisi et du pain noir pour nourrir plus de 150 hommes. Les jours se suivent, interminables, identiques. L'horizon n'offre que le bleu profond de l'océan et le ciel sans fin. Pas une terre en vue, pas une île où s'abriter, pas la moindre promesse de réconfort. Les marins, épuisés, sombrent dans une routine mécanique. Réparer les voiles, rapiécer les cordages, écoper l'eau qui s'infiltre dans les cales, surveiller l'horizon avec une vigilance obsédante. L'air marin dessèche la peau. Le soleil brûle les visages. Le sel irrite les plaies. Bientôt, la faim se fait sentir. Les premiers à souffrir sont les plus jeunes, les plus faibles. Magellan, conscient du danger, rationne strictement les vivres. Une poignée de riz ou de pain par jour, une gorgée d'eau à chaque repas. Pour tromper la faim, certains mâchent du cuir bouilli, rongent les morceaux de bois imbibés d'eau de mer, avalent de la sûre pour remplir leur estomac. La nuit, le silence n'est troublé que par les gémissements des malades et le craquement du bois sous la pression des vagues. La maladie, inévitable, frappe sans relâche. Le scorbut, inconnu à l'époque, décime l'équipage. Les gencives saignent, les dents tombent, la peau se couvre d'ulcères, les membres gonflent, la fièvre monte. Bientôt, il faut jeter à la mer les premiers morts, dont les corps amaigris n'ont plus rien d'humain. La peur grandit, la foi vacille. Certains marins prient, d'autres sombrent dans le désespoir ou la colère. Les officiers, impuissants, redoublent d'efforts pour maintenir l'ordre et la discipline. Mais le murmure de la révolte plane comme une menace constante. Magellan, isolé dans sa cabine, consigne chaque jour les pertes, les symptômes, les espoirs déçus. Il relie les cartes, calcule les distances parcourues, tente de rassurer ses hommes. Mais il sait que la vérité est cruelle. Nul ne peut prédire combien de jours il faudra encore avant d'apercevoir la terre. Il partage les dernières réserves équitablement, refuse toute faveur, montre l'exemple en souffrant avec ses hommes. Sa volonté seule empêche la panique de gagner l'ensemble de la flotte. Les semaines passent, le soleil monte et descend sans que rien ne change. Des hallucinations apparaissent. Certains croient apercevoir des îles à l'horizon. D'autres imaginent des voiles ennemies, des signaux de détresse. La fatigue ronge les esprits, des querelles éclatent pour une goutte d'eau ou un morceau de pain. Les plus faibles meurent silencieusement. D'autres sont emportés par la folie, sautant par-dessus bord ou s'effondrant sur le pont dans un silence glacial. Les prières se font plus rares, la résignation s'installe. Dans ces moments d'extrême détresse, la nature réserve parfois des miracles inattendus. Un soir, des bancas de poissons volants s'échouent sur les ponts. Un festin inespéré qui ranime le moral des hommes pour quelques jours. Un autre matin, un nuage d'oiseaux annonce la proximité d'une terre. Mais il ne s'agit que d'un mirage, d'une illusion de plus. Magellan organise des gardes pour surveiller l'horizon. Promet des récompenses à celui qui verra le premier la terre. Il invente des jeux, encourage les chants et les histoires pour lutter contre l'angoisse. Enfin, après plus de 3 mois de navigation dans le vide, alors que la mort semble inéluctable, une île apparaît à l'horizon. Les navires accostent sur la petite île de Guam, dans l'archipel des Mariannes. Les habitants, surpris et méfiants, proposent des fruits, de l'eau, des volailles. Les hommes, à bout de force, se ruent sur les bananes, les noix de coco, le poisson frais. Le répit est bref, car les contacts avec les autochtones tournent rapidement à la méfiance et à l'hostilité. Mais la survie de l'expédition est assurée pour un temps. Après ce court repos, la flotte reprend la mer, longeant les archipels d'Asie du Sud-Est. Le climat change, la chaleur devient accablante, les tempêtes tropicales menacent à tout moment d'engloutir les navires déjà endommagés. Les hommes, encore sous le choc du passage du Pacifique, se montrent à la fois reconnaissants envers leur capitaine et hantés par la peur de nouveaux malheurs. Mais pour la première fois depuis des mois, l'espoir renaît. La route vers les îles aux épices semble enfin s'ouvrir. La promesse de la gloire et du salut redevient tangible. Pour Magellan, ce passage du Pacifique restera le plus grand défi de sa vie. Il a vu mourir plus de la moitié de ses hommes, affronter la faim, la folie et la trahison. Mais il a aussi prouvé que la volonté humaine peut, dans l'extrême adversité, ouvrir des chemins impossibles. L'histoire du monde, désormais, ne sera plus jamais la même. Après le cauchemar du Pacifique, l'expédition de Magellan entre dans une nouvelle phase, marquée par la découverte, la tension et l'affrontement de mondes inconnus. Les 3 navires restants, la Trinidad, la Victoria et la Conception, avancent péniblement d'île en île dans l'archipel philippin, cherchant des lieux sûrs pour réparer les coques, refaire les réserves d'eau douce, soigner les malades et enterrer les morts. Chaque escale est un miracle et un risque. Les équipages, amaigris, épuisés, sont autant de survivants que de fantômes. Dès les premiers jours aux Philippines, Magellan comprend que le succès de l'expédition dépend désormais de la diplomatie autant que de la navigation. Il doit convaincre des peuples inconnus de leur offrir du ravitaillement, des abris, parfois même leur amitié ou leur alliance contre des ennemis locaux. Les contacts sont empreints de méfiance, de curiosité, de crainte. D'un côté, les Européens, sales, affamés, armés de mousquets, de l'autre, des communautés insulaires organisées, hiérarchisées, riches en traditions et en légendes. Break. Time per deux. Peu à peu, Magellan tisse des liens avec des chefs locaux, notamment Raja Humabon de Cebu, qui voit dans l'arrivée des étrangers une occasion de renforcer son pouvoir sur les îles voisines. Les présents échangés, les festins organisés, les pactes jurés dans la fumée de l'encens et sous les regards des prêtres chrétiens marquent le début d'une coopération fragile. Magellan, persuadé d'accomplir une mission divine, ordonne le baptême de centaines d'insulaires, fait ériger des croix, promet protection et richesse à ses nouveaux alliés. Mais la situation reste précaire. Chaque chef philippin est lui-même entouré de rivaux, d'ennemis, de peuples hostiles. Les Européens, bien qu'épuisés, sont vus à la fois comme des alliés puissants et des intrus dangereux. Les tensions montent à mesure que les exigences de l'expédition grandissent. Vivre, or, esclaves, guides, informations sur la géographie et les courants. Certains autochtones se révoltent contre la domination naissante des Espagnols. D'autres cherchent à manipuler Magellan pour affaiblir leurs adversaires traditionnels. Magellan, conscient de la fragilité de ses alliances, multiplie les gestes de bonne volonté. Il fait distribuer des présents, partage la nourriture, tolère certains rituels locaux, écoute les doléances des chefs. Mais il impose aussi ses lois, punit sévèrement les actes de violence ou de vol, exige la conversion au christianisme comme gage de fidélité. Cette politique de la carotte et du bâton nourrit autant la loyauté que la rancœur. Les marins, eux, oscillent entre l'émerveillement devant la richesse et la beauté des îles, et la nostalgie déchirante de l'Europe, de leur famille, de la vie ordinaire. La logistique quotidienne pèse de plus en plus sur l'organisation de l'expédition. Les navires sont en piteux état. Coques fissurées, voiles rapiécées, ancres perdues ou brisées. Il faut inventer des moyens de réparation avec les ressources locales, échanger des outils contre de la nourriture, négocier chaque planche de bois, chaque jarre d'eau potable. La maladie n'a pas disparu. Le scorbut, la fièvre, les infections déciment encore les rangs, malgré les soins prodigués par les rares officiers médecins. Les enterrements en pleine jungle se succèdent. Chaque nom inscrit dans le journal de bord étant un rappel de la précarité de la survie. À terre, la découverte du mode de vie philippin fascine et désoriente les Européens. Les marchés grouillent de vie. Les palais des chefs rivalisent du luxe. Les rituels religieux mêlent sacrifices, danse, musique et croyances en des esprits puissants. Les épices, l'or, l'ivoire, les tissus colorés suscitent la convoitise. Mais la barrière de la langue et l'incompréhension culturelle sont source de malentendus constants. Plusieurs altercations éclatent entre marins et insulaires, causant des blessures, parfois des morts. Magellan tente de limiter les débordements, mais l'animosité s'enracine. C'est dans ce climat d'extrême tension qu'éclate le drame de Mactan, l'île voisine de Cebu. Magellan, poussé par son désir de prouver la supériorité de ses armes et de renforcer son autorité, décide d'intervenir dans un conflit local opposant ses alliés à un chef rebelle, Lapu-Lapu. Ignorant les mises en garde de ses propres hommes et sous-estimant le terrain, il dirige une expédition punitive avec une poignée de soldats. À l'aube du 27 avril 1521, l'affrontement tourne au désastre. Piégé dans les hauts fonds, Magellan est encerclé, blessé par des lances et des flèches, abandonné par une partie de ses hommes. Il meurt sous les yeux de l'ennemi. La mort du capitaine général est un choc sans précédent pour toute l'expédition. Les officiers survivants se disputent le commandement. Duarte Barbosa, Juan Serrano, puis Juan Sebastián Elcano, chacun tente de maintenir la cohésion, d'assurer la sécurité des navires et de préserver l'essentiel de la mission. Les alliances avec les chefs locaux se fragilisent, certains trahissent, d'autres tentent de profiter du chaos pour s'enrichir. Les marins, désorientés, hésitent entre la fuite et la poursuite de la route vers les îles aux épices. La flotte, réduite à deux navires après l'abandon forcé de la Concepción, décide finalement de continuer. Les survivants brûlent leur mort, négocient âprement chaque escale, avancent à travers les archipels indonésiens en évitant pirates, tempêtes et nouveaux pièges diplomatiques. La perte de Magellan est vécue comme une malédiction, mais elle pousse aussi les hommes à se surpasser, à faire preuve d'ingéniosité, de courage et de ruse pour atteindre l'objectif final. Au fil des mois, la traversée vers les Moluques se poursuit dans la fatigue, la peur, mais aussi l'espoir. Les récits de ceux qui survivent parlent d'îles paradisiaques, de marchés fabuleux, de dangers constants. À chaque étape, les marins laissent derrière eux des compagnons, des rêves, parfois leur santé ou leur raison. Mais l'objectif demeure: rapporter en Espagne la preuve qu'un passage par l'Ouest existe, qu'il est possible de faire le tour du monde, que la vision de Magellan, même dans la mort, guide toujours la destinée de ses hommes. Ainsi, après avoir traversé la folie du Pacifique et les pièges des archipels asiatiques, l'expédition, orpheline de son chef, entre dans la dernière phase de son odyssée. Il ne reste que l'endurance, l'obstination, la foi en la survie pour affronter les épreuves à venir. L'histoire du monde est sur le point de basculer, mais nul ne sait encore à quel prix. La mort de Magellan laisse l'expédition sans son guide, son stratège et son esprit. Le choc est immense. Pour la première fois, les marins réalisent qu'ils ne peuvent plus compter sur l'autorité d'un homme que beaucoup craignaient, mais qui, par sa vision et sa force de caractère, tenait la cohésion du groupe. L'incertitude s'abat sur l'ensemble de l'équipage, désormais livré à lui-même dans un océan d'îles, de peuples inconnus, de dangers sans fin. Les conseils de guerre se multiplient. Qui dirigera ? Faut-il continuer vers l'ouest ou tenter un retour périlleux vers l'Espagne ? Les rivalités s'exacerbent, la méfiance ronge chaque décision, la peur du prochain désastre plane à chaque escale. La flotte, désormais réduite à deux navires, la Trinidad et la Victoria, traverse les Moluques. Ces îles mythiques, tant convoitées par les Portugais et les Espagnols, sont au cœur de toutes les légendes. On y cultive le clou de girofle, la muscade, des épices qui valent une fortune en Europe. Les rescapés de l'expédition sont reçus par les sultans locaux, qui voient en eux des alliés potentiels, mais aussi des intrus encombrants. Les négociations sont subtiles. Chaque échange de présents s'accompagne de soupçons, de promesses ambiguës, de menaces à peine voilées. La maladie et l'épuisement frappent à chaque escale, décimant les rangs d'un équipage déjà exsangue. Pour charger au plus vite leur cale, les officiers s'empressent d'acheter des épices, troquant les derniers biens de valeur. Canons, armes, textiles, objets personnels, parfois jusqu'aux vêtements sur leur dos. Les navires sont réparés tant bien que mal avec les moyens du bord. Mais la tension est palpable. La crainte des Portugais, omniprésente, pousse les survivants à accélérer leur départ, évitant les ports sous influence lusitanienne. Les contacts avec les populations locales oscillent entre la méfiance et la violence, car la moindre étincelle peut dégénérer en attaque ou en trahison. Très vite, la Trinidad, le vaisseau amiral, tombe gravement en panne. Son équipage, trop faible pour réparer les avaries, se voit contraint de rester sur place. Beaucoup des hommes, malades ou prisonniers des sultans, ne reverront jamais l'Europe. La Victoria, commandée par Juan Sebastián Elcano, doit partir seule. Le choix est cruel, mais il n'y a pas d'alternative. Il faut tenter de rentrer, achever le tour du monde pour sauver l'honneur de l'expédition et la vie des derniers survivants. C'est le début d'une fuite éperdue à travers l'océan. In the end, la Victoria, minée par les fuites d'eau, surchargée d'épices, s'éloigne des côtes et choisit une route directe vers l'ouest, évitant à tout prix les territoires contrôlés par le Portugal. Les vivres sont rationnés au plus strict minimum. L'eau est infectée. La maladie continue son œuvre mortelle. À bord, l'atmosphère est lourde. Chaque homme lutte contre la faim, la soif, la fatigue et la nostalgie de la patrie. Des voix s'élèvent pour abandonner les épices, alléger le navire. Mais la perspective de revenir les mains vides terrifie autant que celle de mourir en mer. La navigation vers l'Afrique est un calvaire. Des tempêtes isolent le navire. Les vents contraires font dériver la Victoria vers les côtes les plus hostiles. Les marins craignent d'être repérés par les escadres portugaises qui patrouillent l'océan à la recherche d'intrus espagnols. Chaque escale, chaque mouillage se fait dans la peur et l'urgence. La malaria, le scorbut et la dysenterie réduisent encore le nombre des vivants. Le journal de bord d'Elcano et d'Antonio Pigafetta, l'un des rares chroniqueurs à survivre, raconte avec sobriété la lente disparition de compagnons d'infortune, la tension de chaque nuit, la force du désespoir qui parfois pousse à la folie ou au suicide. Quand la Victoria, à bout de force, atteint enfin la côte d'Afrique à hauteur du Cap de Bonne-Espérance, c'est un miracle. Mais la traversée du Cap est un nouveau supplice. Les tempêtes du sud, les courants violents, la mer démontée mettent à rude épreuve la résistance des hommes et du navire. Des semaines de navigation sans voir la terre, sans vivre frais, condamnent certains à la mort. Les survivants, hagards, affamés, brûlés par le sel et le soleil, n'ont plus que la volonté de ne pas mourir sans avoir vu leur patrie. les prières reprennent, parfois des rites de pénitence s'improvisent sur le pont, dans un mélange de peur et d'espoir fou. Les rencontres avec des populations africaines sont rares, brèves, tendues. Quelques échanges permettent d'obtenir un peu de riz, d'eau ou de fruits, mais la méfiance règne des deux côtés. Toute escale prolongée risquerait d'attirer l'attention des Portugais ou de provoquer un massacre. Elcano doit jongler entre la nécessité de se ravitailler et l'obligation de rester invisible, multipliant les détours, les escales nocturnes, les traversées désespérées dans des conditions extrêmes. À l'approche de l'Atlantique, le nombre des survivants est réduit à une poignée d'hommes, à peine assez pour manœuvrer la Victoria. Certains sombrent dans la folie, d'autres ne parlent plus, hagards, fixant l'horizon sans réaction. Les épidémies ont marqué chaque visage, chaque corps. Les souvenirs de Magellan, des compagnons disparus, de l'Espagne lointaine hantent les nuits. Mais Elcano, farouche, tient la barre. Décide de tout risquer pour franchir la dernière étape de ce voyage sans précédent. Le dernier acte de l'Odyssée commence. La traversée du golfe de Guinée, puis la remontée laborieuse vers l'Espagne. Les vents sont parfois favorables, parfois contraires. Des tempêtes brisent les mâts, emportent les voiles, arrachent la confiance des derniers hommes debout. La Victoria, abîmée, prend l'eau. Chaque fuite est colmatée dans la hâte avec des chiffons, des planches, des prières. Le navire semble tenir par miracle, par l'obstination d'un équipage décidé à ne pas mourir si près du but. Enfin, après des mois d'errance, la terre d'Europe apparaît à l'horizon. La Victoria, méconnaissable, entre dans la baie de Sanlúcar de Barrameda, là où l'aventure avait commencé. C'est le 6 septembre 1522. Sur les 237 hommes partis de Séville, 18 seulement posent le pied à terre, portés par la fièvre, la faim, l'incrédulité. Le tour du monde est accompli. L'impossible est devenu réalité. Mais à quel prix ? La mort, la folie, la perte de tout ce qui faisait la vie d'avant. Dans le silence du port, dans les larmes et les embrassades, se mesure la grandeur et la tragédie de l'exploit. La rumeur du retour parcourt l'Europe, bouleverse la science, la politique, le commerce. Juan Sebastián Elcano et les survivants, honorés mais brisés, apportent que la preuve définitive que la Terre est ronde, que les océans sont liés, que le monde connu n'a plus de frontières infranchissables. Le monde, désormais, ne sera plus jamais le même. Mais les cicatrices de ce voyage, physiques et morales, ne guériront jamais tout à fait. Pour les rescapés, la gloire se mêle au deuil, l'émerveillement à la nostalgie de ceux qui ne reviendront jamais. L'ère des grandes découvertes entre dans une nouvelle dimension, mais c'est à Magellan, disparu loin de chez lui, que l'histoire doit le bouleversement de la carte du monde. Le retour de la Victoria à Séville marque un bouleversement sans précédent dans l'histoire de l'Europe et du monde. À peine le navire accosté, la nouvelle du tour du monde accompli se répand dans les ports, les palais et les marchés. La rumeur, amplifiée par l'étonnement et l'admiration, dépasse vite les frontières de l'Espagne. On parle de merveilles rapportées, d'épices rares, de récits extraordinaires sur des peuples, des îles et des océans jamais vus auparavant. Les survivants deviennent des héros, objets de curiosité, d'interrogation, de jalousie et de convoitise politique. La couronne espagnole organise de grandes réceptions en l'honneur des rescapés. Juan Sebastián Elcano reçoit des honneurs exceptionnels, la permission d'arborer des armoiries représentant la terre et la devise « Tu l'as contourné le premier ». Mais derrière les fastes, la réalité est plus amère. Les survivants sont brisés physiquement et moralement, marqués à vie par la faim, la maladie, les deuils et la perte de tout repère. Beaucoup ne tardent pas à sombrer dans l'oubli, la pauvreté, ou à mourir peu après leur retour, incapable de s'adapter à la vie ordinaire après une telle odyssée. Les trésors rapportés, principalement des épices, suffisent à peine à rembourser le coût de l'expédition. Mais le gain véritable est ailleurs. Les chroniques d'Antonio Pigafetta, qui relatent chaque étape, chaque rencontre, chaque catastrophe, sont lues dans toute l'Europe. Elles inspirent des générations d'explorateurs, de cartographes, de philosophes qui cherchent à comprendre les lois du monde, les limites de la connaissance, la diversité humaine et les mystères de la géographie. L'expérience vécue par ces hommes modifie la vision que l'Europe porte sur elle-même et sur l'univers. Très vite, les puissances maritimes rivales, Portugal, France, Angleterre, Pays-Bas, comprennent la portée de l'exploit. La preuve est désormais faite qu'il existe une voie maritime continue autour de la Terre, que l'océan Pacifique relie l'Atlantique à l'Asie, que le globe n'a plus de bout du monde. Les cartes, les routes commerciales, les traités internationaux s'adaptent à cette nouvelle donne. Les souverains ordonnent la construction de nouveaux navires, le lancement d'expéditions encore plus ambitieuses, la recherche d'autres passages, d'autres richesses, d'autres mondes à conquérir. Les scientifiques, astronomes, géographes, mathématiciens se penchent sur les données rapportées par l'expédition. Les mesures de la latitude, les observations du ciel austral, les descriptions des courants et des vents, tout cela enrichit les connaissances, bouscule les certitudes. On commence à comprendre la variation de la date selon la longitude, le décalage des saisons, la multiplicité des climats et des espèces. Le tour du monde devient le laboratoire de la modernité, l'acte fondateur d'une science nouvelle où l'expérience, l'observation et le doute remplacent la simple spéculation. Dans les villes d'Europe, l'impact de l'expédition est immense. Les marchés s'ouvrent aux épices asiatiques, dont les prix chutent avec l'abondance. Le goût, la cuisine, la médecine, le commerce de luxe changent de visage. Les fortunes se font et se défont sur la promesse d'une cargaison venue du bout du monde. Les banquiers investissent dans la construction navale. Les armateurs lancent des compagnies d'exploration. Les marchands se font cartographes et linguistes. La mondialisation naît, portée par l'audace et la souffrance de quelques dizaines d'hommes. Pour la monarchie espagnole, le prestige de l'expédition renforce la légitimité de Charles Quint sur la scène internationale. Mais l'Espagne ne tarde pas à comprendre que le contrôle des nouvelles routes n'est pas garanti. La rivalité avec le Portugal s'accentue. Les conflits diplomatiques sur la possession des Moluques s'enveniment. Et bientôt la France, l'Angleterre et la Hollande entreront dans la course aux Indes et aux colonies. La découverte du tour du monde ne met pas fin à la guerre. Elle inaugure au contraire une ère de compétition sans merci pour la maîtrise des océans. Sur le plan humain, les conséquences de l'expédition sont profondes et ambivalentes. D'un côté, l'aventure de Magellan et de ses hommes inspire l'admiration pour le courage, la ténacité et la curiosité humaine. De l'autre, elle révèle la violence, la fragilité et la solitude de ceux qui osent braver l'inconnu. Les survivants témoignent de la faim, de la folie, de la cruauté des tempêtes, des trahisons et des conflits internes. Les marins qui, un jour, faisaient la fête sur les quais de Séville, ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, hantés par la mémoire des disparus. La postérité de Magellan devient alors un enjeu politique, moral et scientifique. Les autorités espagnoles minimisent parfois son rôle, car il était portugais, et célèbrent Elcano comme le véritable héros. Les chroniqueurs, les poètes, les peintres débattent sur la place de Magellan dans la mémoire collective. Visionnaire ou tyran, martyr ou conquérant, pionnier ou outil du pouvoir. Les débats traversent les siècles, chaque époque relisant l'histoire à l'aune de ses propres valeurs, de ses peurs, de ses rêves. Les conséquences de la circumnavigation ne se limitent pas à l'Europe et à l'Asie. L'ouverture du monde provoque des bouleversements dans les sociétés rencontrées. Les Philippines, les Moluques, les peuples d'Amérique du Sud voient leur destin basculer sous l'impact du commerce, des maladies, de la religion et des armes venues d'Occident. L'histoire s'accélère. Les cultures s'entrechoquent, se mêlent, disparaissent ou se réinventent. Les missionnaires suivent les marins. Les marchands suivent les missionnaires. Les soldats suivent les marchands. Le globe devient un immense chantier, fait de conquêtes, de résistances, d'injustices et de métissage. Enfin, dans la mémoire populaire, le récit du voyage de Magellan devient symbole. Dans les auberges, les universités, les salons, on raconte la folie du Pacifique, les géants de Patagonie, la mort du capitaine à Mactan, la fuite d'Elcano, la gloire des survivants. Des cartes sont dressées, des romans sont écrits, des chansons circulent de port en port. Chaque génération réinvente l'aventure, y projette ses espoirs ou ses craintes, fait de Magellan tantôt un héros, tantôt un avertissement contre l'orgueil et l'avidité. Dans ce bouleversement général, un constat s'impose. Après la Victoria, rien n'est plus comme avant. Les mers ne sont plus des barrières, mais des ponts. Les distances se mesurent en mois, en années de vie, en vie perdue et en monde gagné. L'Europe entre dans l'ère de la mondialisation, et c'est le sang, la sueur, les larmes des hommes de Magellan qui en sont le prix. Avec le retour de la Victoria, une ère nouvelle commence. Mais la fin du voyage n'est que le début d'une révolution globale dont les conséquences se déploient sur des siècles. Au lendemain de l'exploit, l'Europe peine à mesurer l'ampleur de ce qui vient de s'accomplir. Une poignée d'hommes, au prix d'immenses souffrances, vient de prouver que le monde est clos, que toutes les mers communiquent, que l'espace des mythes cède la place à l'espace des cartes. Pour la première fois, l'humanité contemple sa planète dans sa rondeur, sa fragilité et son immensité conquise. Le récit du tour du monde s'impose dans toutes les sphères. Dans les cours royales, il devient un instrument de légitimation, un argument dans la course aux empires. Les souverains commandent des fresques, des poèmes, des chroniques pour célébrer ou s'approprier la gloire de l'expédition. En Espagne, Elcano est fait chevalier. Les survivants reçoivent des honneurs, mais l'État garde le contrôle sur le récit, sélectionne les informations à diffuser, censure ce qui pourrait nuire à son prestige ou à ses intérêts dans les négociations internationales. Les rivalités entre puissances ibériques redoublent, chaque découverte servant à affûter la stratégie, à justifier de nouvelles expéditions, de nouveaux traités. Dans le peuple, la fascination pour l'aventure l'emporte sur la froideur des diplomates. Les marins, dans les tavernes de Séville ou de Lisbonne, se transmettent les détails les plus terrifiants. Les mutineries en Patagonie, la faim, les corps jetés à la mer, la tempête au Cap de Bonne-Espérance, les îles lointaines peuplées de géants ou de cannibales. La légende se tisse à partir du réel. Chaque histoire embellie ou déformée par la peur, l'admiration ou la jalousie. Les chansons de port, les prières, les récits de veillée résonnent dans tout le continent, conférant au périple de Magellan une place unique dans l'imaginaire collectif. Mais l'héritage de cette expédition ne se limite pas à l'émotion ou à la politique. Très vite, les universités, les académies, les savants s'emparent des observations rapportées. Position des astres, courants marins, faune et flore des îles lointaines, variation des climats, coutumes des peuples rencontrés. La circumnavigation donne naissance à une géographie nouvelle, plus rigoureuse, plus expérimentale. Les cartes du monde sont redessinées, la notion de longitude, jusqu'alors imprécise, devient une obsession pour les navigateurs et les mathématiciens. Les premiers globes terrestres apparaissent, synthétisant les connaissances de toute une génération et traçant de nouveaux chemins pour les explorateurs futurs. L'aventure inspire aussi la littérature, l'art, la philosophie. Le voyage de Magellan devient un mythe de la modernité. Il symbolise la conquête de l'inconnu, l'audace, la souffrance, mais aussi la capacité de l'homme à repousser les limites du possible. Les écrivains en font une épopée. Les peintres s'en inspirent pour des fresques, des gravures, des cartes enluminées. Les penseurs, des lumières sortent à l'époque contemporaine, voient dans la circumnavigation un tournant dans l'histoire de l'humanité. Le passage d'une ère de superstition à une ère de raison, d'obscurité à la lumière du savoir. Cependant, l'aventure de Magellan révèle aussi la face sombre de l'expansion européenne. La conquête des mers entraîne l'exploitation, la domination, la disparition de civilisations entières. Les navires de commerce, les galions d'or et d'épices sont suivis par les vaisseaux de guerre, les missionnaires, les administrateurs coloniaux. Les sociétés rencontrées en Asie, en Afrique, en Amérique subissent des bouleversements sans précédent. Maladies, conversions forcées, exploitation économique, asservissement. La mondialisation, inaugurée dans la souffrance et la mort, porte autant de promesses que de catastrophes. Pour les survivants de l'expédition, la gloire reste mêlée d'amertume. Beaucoup, après avoir vu l'enfer, ne trouvent plus leur place dans le monde qu'ils ont contribué à transformer. Le récit de leur retour se termine souvent dans l'oubli, la pauvreté, la maladie. Le prestige d'un exploit ne compense jamais la perte des compagnons, la nostalgie de la mer, l'éloignement de la vie simple d'avant. Magellan, lui, mort loin de sa patrie, devient le symbole d'un destin plus grand que la volonté d'un seul homme. Son nom s'attache à l'exploit, à la souffrance, à l'orgueil et à la fragilité humaine. Au fil des siècles, la mémoire de Magellan évolue. Les statues s'élèvent dans les ports. Les livres d'école enseignent son nom aux enfants. Les savants citent son exemple dans les traités de géographie. Mais l'histoire, relue par chaque époque, nuance le portrait. Héros ou tyran, pionnier ou colonisateur, martyr ou ambitieux démesuré. Les débats se poursuivent et la légende se transforme à mesure que le monde change. Aujourd'hui, dans un univers mondialisé où les distances semblent abolies, l'Odyssée de Magellan conserve toute sa force. Elle rappelle la grandeur des découvertes et le prix à payer pour chaque pas vers l'inconnu. Dans le sillage de la Victoria, l'humanité a appris à se penser comme un tout, fragile, exposé, dépendant des éléments et de la solidarité. L'océan, jadis barrière, est devenu espace d'échange, de rencontres, parfois de conflits. L'aventure de Magellan incarne cette tension entre la soif de connaître et la nécessité de respecter, entre l'orgueil du conquérant et la prudence du sage. C'est dans cette leçon, durement apprise, que réside la vraie grandeur du premier tour du monde. Aujourd'hui encore, le nom de Magellan évoque le mystère, l'audace, la douleur et l'émerveillement. Il appartient à chacun de voir dans cette histoire un avertissement ou un appel. Explorer le monde, ce n'est pas seulement conquérir, c'est aussi apprendre à écouter, à comprendre, à s'émerveiller devant l'inconnu et à se souvenir de ceux qui, les premiers, ont tout risqué pour ouvrir la voie.